Vous êtes sur France Musique, il est minuit, es ist Mitternacht. À l'improviste. Anne Montaron.
L'improviste, c'est aujourd'hui à l'art du portrait avec le percussionniste Léquanine, né à Paris en 1961, et venu à la musique de bonne heure.
Pendant longtemps, cette motivation donc première sans doute qui m'a poussé à faire de la musique m'a vraiment tenaillé. C'était, pour reprendre un mot que je trouve incroyable, que du poète Charles Juliet, ça me taraudait. C'est-à-dire que ça m'a obsédé complètement, la musique m'a obsédé, m'a même empêché de vivre normalement, je dirais, parce que de porter attention à autre chose que ça, etc., etc., y compris ma famille. Et donc, c'était quelque chose là qui me possédait absolument. Et puis, j'ai compris, il n'y a pas si longtemps que ça, que cette possession n'était évidemment pas forcément une source de liberté, puisqu'il y avait donc sans doute quelque chose comme une nécessité intérieure qui m'empêchait de pouvoir appréhender tout le reste. Et quand il y a nécessité, en général, il n'y a pas beaucoup de liberté. Alors après, c'est que veut dire la liberté? Après, il faut pouvoir aussi donner des définitions. Et ça aussi, ça, c'est assez difficile à décrire. Moi, je m'aperçois petit à petit que la liberté qui serait la plus importante, c'est d'être libre de soi.
Éprouver très jeune et très tôt le besoin d'improviser, est-ce que le ressort c'est justement cette liberté dont tu viens de parler, être libre de soi comme tu disais?
Oui, sans doute, mais sans que je puisse le formuler comme je le fais maintenant. Aussi c'est des rencontres, hein. Justement là, c'était un ami du lycée qui m'a fait entendre pour la première fois du free jazz, vraiment le premier disque de jazz. À la maison on n'écoutait pas beaucoup. Donc, et puis si on en écoutait, c'était plutôt Duke Ellington, tandis que là, il m'a fait écouter un solo de Cecil Taylor, Eric Dolphy, un disque de Pharoah Sanders, enfin, c'était les premiers disques vraiment que j'avais entendus, et puis Ascension quand même de Coltrane, donc à l'âge de 15 ans, sur une extraordinaire chaîne stéréo, qui sonne tellement bien qu'on a l'impression que les personnes sont là. C'était d'abord un choc vibratoire, avant d'être un choc culturel. C'est profondément le son dans l'espace qui est ressenti là dans le volume de la pièce. Donc il y a quelque chose de très avant l'histoire du jazz, du free jazz, ce que ces musiques peuvent porter, soit d'expression, soit de revendication, soit simplement de contemplation, peu importe. En tout cas, avant ça, c'était une présence vibratoire du son qui m'a vraiment bouleversé tout de suite. Donc avant la culture, en fait, c'était la nature, en fait, quelque part. C'est cette nature du son. Et cette personne m'a fait donc entendre ça, et ça a été sans doute justement cette petite graine sur qu'il y a aussi une autre manière de faire de la musique que de jouer de la musique classique ou même contemporaine écrite. Et donc, très tôt, effectivement, j'ai été... le virus avait été mis là sur cette autre manière. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir aller, j'habitais en région parisienne un peu plus proche, j'étais au conservatoire de Versailles, donc dans la journée j'avais, je dirais, l'enseignement régulier, et puis le soir je pouvais aller écouter les concerts de musique dite libre, donc ce qu'on appelait la free music à l'époque, on dit plus ça maintenant, et principalement au Théâtre du Noir, mais il n'y avait pas seulement le Théâtre du Noir, il y avait plein d'autres endroits, et puis au Jazz Unité La Défense, qui était un club qu'avait ouvert Gérard Théronès à La Défense. Je ne sais plus combien de temps ça a duré, peut-être 3 ou 4 ans. Et donc j'ai pu entendre des musiciens qui faisaient non pas forcément l'opposé de ce que j'apprenais la journée, mais c'était un autre monde. Et donc les deux mondes ont toujours été présents. Théâtre du Noix, l'un des deux responsables, Nelly, avait commencé au tout début des années 80 à filmer les concerts et à les diffuser sur deux moniteurs qui étaient de part et d'autre de la scène, à jardin et à cour, avant le concert en direct qu'on allait entendre. Et c'est comme ça que, fasciné, j'entends une musique absolument magnifique et qui puisait aussi, qui avait l'air à la fois libre et qui avait l'air de puiser ses sources aussi dans une forme de folklore, mais pas à la manière de l'Arfi, que j'entendais beaucoup dans ces années-là, bien sûr. Et donc, je m'approche de Sylvain Torikian, le directeur, et je lui dis « Mais qui sont ces deux types-là ?» Un chanteur et un saxophoniste. Il me dit « Oh, ça, c'est deux types qui viennent du Sud-Ouest. » Je crois qu'ils sont du côté de Toulouse ou peut-être les deux sont au Pays Basque, c'est Beñat Achiari et Michel Doneda. Et d'ailleurs, ça a été, ce moment-là a été la petite graine qui a été mise dans mon cerveau en me disant « Ah, mais il y a donc une vie en dehors de Paris
rencontre importante oriente définitivement l'équanime vers l'improvisation libre. Le guitariste Jean-Christophe Aveline, le clarinettiste Micha Lopko et surtout le saxophoniste Donny Clasereau, avec lequel l'équanime forme équipe, d'abord au sein de la compagnie du hasard, puis en trio, aux côtés de Michel Doneda. Un trio qui s'est ensuite élargi au quartet en accueillant le poète Serge Pey, poète et performeur au verbe haut et coloré.
Quand on se méfie de la musique qui parle, ce qui est mon cas, je dirais, c'est formidable de voir quelqu'un qui prend en charge la parole. Voilà. Donc c'est vraiment le métier vraiment de prendre en charge la parole. Ouais. Et plutôt que nous d'essayer de raconter ci ou ça, on le fera toujours pas si bien que ça. Non pas forcément avec la parole parlée, mais même dans l'expression même de l'instrument, de la musique. Là, quand tout d'un coup quelqu'un prend en charge la parole, et en plus de manière musicale, c'est-à-dire que il a un sens vraiment du rythme, de ce qui se passe et de la présence et de quand est-ce qu'il doit intervenir, quand est-ce qu'il accélère. C'est vraiment c'est un instrumentiste, bien que ses textes soient écrits à l'avance, et bien qu'il utilise vraiment la parole qui est pour moi plutôt, dans mon imagination, parce que c'est sans doute pas vrai, mais dans l'imagination, quelque chose qui est plutôt vers le haut, alors que pour moi la musique est plutôt vers le bas. La musique est plutôt vers le sol, alors que la parole est plutôt vers le ciel, disons. Et que quelqu'un comme ça puisse prendre en charge ça, nous, comme ça, on peut s'occuper de ce qui est vers le bas, on n'est pas entre les deux. Et ça, c'est... pour moi, ça a été vraiment une rencontre formidable, qu'il y ait cette prise en charge de la parole, et en plus, une parole qui est aussi très tellurique, et aussi, finalement, avec des mots très simples, travaillé, mais très simple, quand on finit par l'écouter, et qui met en route peut-être des images, des impressions qui sont aussi très enfouies et qu'on semble reconnaître tout de suite. Voilà. Parfois ça paraît simple, parfois ça paraît simpliste, mais c'est des images qui parlent très, très fort, qui viennent rejoindre justement des régions sans doute que nous on explore sans forcément le vouloir, en travaillant la matière sonore.
Si devant le poème se lève une réponse, om, elle pose une soustraction contre le visible, om, et enlève le oui de l'affirmation qui la porte, om, entends mes pieds hors de moi, om, qui marche vers moi, om, et qui presse des miroirs, om, pour le nouveau sang des questions, om, le poème se fait avec les pieds, om, comme le baiser avec la bouche, om, ou la table avec le couteau, om, avec mon bâton j'écris sur le sable, om, puis souvent je continue ma phrase sans m'arrêter, om, en taguant sur le métro de la mer, om, avec la bombe invisible d'un oiseau, om, si tu me poses la question, om, je répondrai contre ma réponse, om, et ma réponse s'unira à la question, om, et cassera le bâton, om, écrire aussi sur la voix, om, puis continuer avec ses pieds, om, car un poème ne se compte pas avec l'œil, om, ni avec les doigts, om, ni avec la bouche, om, mais avec le pied mental de la chaussure qui solidifie la musique, om.
L'équanine dit se méfier de la musique qui parle. Il nourrit la même méfiance vis-à-vis de la parole sur l'improvisation. Peut-on saisir par les mots cette expression du moment par nature insaisissable ? La parole n'est sans doute pas le moyen le plus adapté à cette expression de l'éphémère. Alors qu'en est-il des mots couchés sur le papier ? De l'équanine, les éditions Môme Ludit du CFMI de Lyon ont édité quelques réflexions regroupées sous le titre d'abécédaire d'une expérience. De lettre en lettre, de paragraphe en paragraphe, ce qui frappe à la lecture de cet abécédaire, c'est l'aveu d'ignorance de ce praticien de l'improvisation libre. Par touche, par bribes, par élément épars. J'essaie de décrire ce qui se passe quand j'improvise, mais je ne sais toujours pas ce que c'est. Mon ignorance est totale. Je sais ce que je veux éviter, mais d'où vient l'évidence de cet évitement? D'où viennent tous ces petits refus qui m'obligent à inventer des détours, à contourner le geste trop appris?
C'est vraiment insaisissable. Moi, je trouve absolument fascinant la fragilité de cette pratique qui est qu'on doit être incroyablement attentif au moment présent sans réellement savoir d'où il vient et où il va. C'est-à-dire qu'on est obligé de... Il y a quand même une forme d'acceptation de ce qui se passe complètement, c'est-à-dire et de ne rien regretter de ce qui s'est passé ni de ce qui pourrait se passer. Et c'est quand même... ça reste pour moi donc une pratique absolument, absolument fascinante pour ça. Même si ce qui est fou, c'est que l'instant, on y porte vraiment attention. Et puis après, on ne sait pas ce que c'est que l'instant. On ne sait pas si... comment dire ? D'ailleurs, dans un nouvel article qui paraîtra, je parle un peu de ça en faisant une analogie avec ce que les physiciens parlent, comment les physiciens parlent du photon qui est à la fois une onde et une particule, selon si on l'observe ou pas. Eh bien, je crois que c'est un peu pareil, c'est-à-dire que l'instant, même en musique, est-ce qu'il est un flux ou est-ce qu'il est un instant duquel on va aller à l'autre, donc comme une particule, selon qu'on l'observe ou pas. Et je ne le sais toujours pas, mais le fait est que c'est absolument extraordinaire de pouvoir porter attention à l'instant, parce que porter attention, c'est tout ce que l'on a. Tu vois, donc il faut qu'on fasse ce travail-là, et on ne peut pas faire l'économie de ça. On n'a pas le droit de faire l'économie de ça, c'est-à-dire qu'on se doit aussi de le faire. C'est vraiment le travail. Et puis, et il fuit en même temps, donc on n'a rien. En fait, je disais qu'on n'a que ça, mais en fait, on n'a rien. Donc, c'est pour ça que je dis que je reste très ignorant, d'autant plus que je ne peux pas contrôler non plus où en est, si je joue avec d'autres personnes. Je ne peux pas contrôler où ils en sont. Hein? Et j'ai du mal à contrôler où j'en suis. Donc, comment je pourrais contrôler où chacun en est? Donc, il y a quand même une acceptation d'un état réel, là, d'un moment présent, avec chacun là où il en est, que ce soit les gens qui écoutent, par exemple, que ce soit les gens qui jouent. Et ça, c'est complètement insaisissable. Alors justement, ce qui est très curieux, c'est qu'on doit faire ça. Alors que pour pouvoir justement porter attention, on pourrait porter attention n'importe quand dans la journée, dès qu'on se lève. Une fois, j'ai rencontré une vieille dame anglaise qui avait connu Alexander, de la fameuse méthode Alexander. Et donc, elle enseigne Alexander aux États-Unis. Et cette femme m'avait posé cette question toute simple, mais comment tu te lèves le matin? J'étais incapable de lui répondre. Et n'empêche que maintenant, chaque matin, je fais attention à comment je me lève et donc aussi je pense à elle. Et donc, porter attention, ça ne veut pas forcément penser à des gens. C'est juste porter attention. Et alors, on trouve beaucoup de prétextes pour le faire, dont faire de la musique. J'ai des fois l'impression. Hein, c'est pour ça que je parlais aussi de ces nécessités un peu bizarres. Parce qu'à un moment où on porte attention de manière un peu plus générale, peut-être que la nécessité de faire de la musique pourrait disparaître. Puis on a appris depuis Thoreau et depuis Cage qu'il suffit d'ouvrir les oreilles, ce qui est absolument vrai. Il suffit de commencer l'écoute et la musique est absolument là. Et donc tout ça, c'est... Donc vraiment, je ne sais vraiment pas pourquoi on fait ça. On est obligé d'amener beaucoup de matériel très lourd, simplement pour vivre ces moments-là, alors que peut-être il suffirait juste d'être un peu plus attentif tout le temps. On n'a peut-être pas forcément besoin de musique. Ou alors la musique aurait cette légèreté, justement, d'être débarrassée de cette nécessité.
le fait que tu, pendant longtemps, n'aies pas eu envie de faire autant de disques, n'est-il pas lié au fait que tu attaches énormément d'importance aussi et au public qui est là, au concert, et au lieu dans lequel se déroule le concert et au rituel du concert d'une certaine manière?
Ah oui, oui, absolument. C'est-à-dire que le lieu est l'instrument, en fait. Hein. C'est, je ne sais pas, une banalité de le dire, mais c'est vraiment l'instrument est un excitateur de l'air qui est contenu dans une pièce, ou pas contenu si c'est à l'extérieur, enfin. Mais en tout cas, c'est un excitateur. Donc effectivement, pour moi, les choses se passent ici et maintenant, réellement. C'est-à-dire que c'est très difficile ensuite d'amener cet ici et maintenant dans ailleurs et plus tard. C'est toujours un peu curieux. Et puis surtout, il y a ce moment vraiment mystérieux qui est le concert lui-même, l'écoute, ce qui se met en route et qui continue de m'étonner complètement. Je continue de m'étonner vraiment d'abord de jouer de la musique et je continue de m'étonner profondément de la nécessité des personnes de venir entendre. Pour moi, ça reste un mystère et qui aussi se perd, paraît, dans le même mystère qui fait qu'on fait de la musique. Alors bien sûr, je peux me rassurer sur le fait qu'on vient tous là partager un moment d'écoute qui est partagé d'abord un moment de relation vibratoire. Là où, en tout cas dans la musique que je pratique, où il y a peu de paroles d'ailleurs, il y a peu de dire, parce que il y a beaucoup des musiques qu'on entend un peu partout, tout autour de nous, sont surtout pour soutenir des paroles. Mais il y a aussi, de toute façon, même des musiques sans paroles qui parlent beaucoup, des fois même qui parlent trop. Mais malgré tout, je pense quand même qu'il y a ce côté, avant tout ça, avant que la musique parle ou ne parle pas, avant qu'elle raconte ceci ou cela ou rien du tout, avant qu'elle soutienne des émotions ou pas, il y a quand même cet aspect vibratoire tout premier qui nous rappelle peut-être quelque chose, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, c'est là où réside sans doute la poésie, parce qu'on ne sait pas, ce que c'est réellement. Alors, ce moment-là est précieux.
Tu parles beaucoup, Nine, et tu en parles aussi dans ton livre, donc tu l'écris, de poésie et de vibration. Ces choses-là ne s'apprennent pas vraiment au conservatoire.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, ça dépend. Moi, je crois que j'ai eu la chance d'avoir cette première professeure de piano. Et cette femme, je pense qu'elle a été formidable là, par rapport à ça. Je sais qu'aujourd'hui, elle travaille vraiment beaucoup comme ça, de faire entendre vraiment les sons du piano, donc les petits, quand elle commence aussi les petits, très humblement, donc les petits se mettent vraiment au-dessus du piano, elle fait entendre les cordes, ils peuvent toucher les cordes, ils peuvent gratter les cordes, et donc il y a un rapport tout de suite avec le son, et ensuite qu'est-ce que c'est que tout cet extraordinaire mécanique qui va faire l'intermédiaire entre le toucher et un son, et puis qu'au bout du compte, chez les formidables pianistes, il n'y a plus d'intermédiaire. Ça, c'est quand même l'instrument pour ça est complètement fascinant aussi. L'instrument, quand on y pense, c'est quand même qui est un intermédiaire entre soi et le son, et qu'on finit par avaler. C'est quand même.
Mais t'as pas eu le temps d'avaler le piano, et pourtant elle t'a sensibilisé à cette vibration, à cette poésie.
Moi, je pense parce que quand j'ai revu cette femme, j'ai compris à quel point elle avait été importante. En fait, j'avais pas. Dans la conscience de l'enfance, évidemment, je n'avais pas saisi ça, mais j'ai vu à quel point elle avait semé la graine, vraiment. Et je l'en remercie très fort, bien évidemment. Et puis surtout qu'elle continue de le faire, ça c'est extraordinaire. Ouais, ouais.
Tu as fait un voyage au Vietnam et tu es d'origine vietnamienne. Est-ce que dans ton set de percussion, il y a des instruments vietnamiens ? Est-ce qu'à un moment donné, tu as été tenté d'en utiliser ?
En fait, j'en ai un seul. C'est le Song Lang, qui est une sorte de petit instrument en bois, un peu comme un tout petit wood block, un petit temple block, qui est frappé par une petite boule de bois qui est elle-même tenue par une lame de métal qui est donc attaché à ce petit bloc. Et en fait, c'est un instrument qui est joué par le musicien ou la musicienne qui joue le Dan Tran, qui est la sitar. Et donc, ce petit instrument est là pour marquer les cycles ou les fins de cycle. Donc, c'est la même personne. Et c'est en fait le seul petit instrument vietnamien que j'ai dans mon set de percussion. Et puis, c'est même peut-être le seul en bois que j'ai. Et d'ailleurs, ça a été presque un désir justement d'avoir cet instrument parce que moi j'ai toujours été attiré, je ne sais pas pour quelle raison, mais par le métal. Et peut-être parce que le métal me permet, en tout cas associé comme je le fais à la peau d'un gros instrument qui est une simple grosse caisse, d'en tirer énormément d'harmoniques et en fait de richesses sonores. Et j'avais toujours un problème avec le bois, puisque le bois a beaucoup de mal à se faire maltraiter, je dirais, ou en tout cas bouleverser, même s'il y a des gens qui font des choses extraordinaires avec le bois et qui sont complètement étonnantes. Mais malgré tout, j'avais un problème comme ça à régler avec le bois. Et puis cet instrument a la sonorité incroyablement aiguë, incroyablement incisive, comme peuvent l'être justement certains bois au Japon aussi, par exemple, m'a attiré tout de suite. Et je ne peux pas jouer sans lui, quoi. Même si je n'en joue pas pendant le concert, il est là. Et puis en plus, c'est le seul instrument que je joue avec les pieds, parce que je ne suis pas batteur, donc je joue debout derrière mon instrument. Et je ne suis pas assis, je n'ai pas des pédales. Et c'est le seul petit instrument à pédales, parce que finalement, c'est un peu comme une petite pédale, en fait, et qui actionne cette petite boule de bois qui va frapper de manière incisive ce bois aigu. J'ai des cymbales chinoises et parfois un gong chinois. Mais le choix, sans doute inconscient, avait été fait plus au tout début où j'ai commencé à improviser, a été fait par souci d'économie, parce que j'avais très peu d'argent, j'étais étudiant, et que les seuls instruments métalliques que je pouvais acheter, donc cymbales, c'était les instruments chinois qui étaient bien meilleur marché que les cymbales standards, qu'on appelle les cymbales turques, du magasin de percussion. Donc tout le monde, beaucoup de percussionnistes connaissent Raymond Mann, on l'appelle, dont j'ai appris qu'il était toujours vivant et qu'il tenait toujours une échoppe à Londres. Donc de temps en temps, j'allais à Londres et j'allais me fournir chez lui. Ensuite, ça a été chez une personne vraiment qui avait été très, très touchante, je trouve, qui s'appelait Mathieu Oberlé et qui avait un gigantesque hangar près de Colmar et qui importait les instruments orientaux et extrême-orientaux. Oui. Et donc, on pouvait y passer des journées chez lui. Et son hangar était un peu comme la fin du film Les Aventuriers de l'Arche perdue. C'est-à-dire que c'était un hangar avec énormément de caisses en bois qu'il fallait ouvrir au pied de biche et dans lesquelles il y avait 50 cymbales, par exemple, dans de la paille. Ça, c'est vraiment des moments incroyables. On passait la journée à écouter cymbale après cymbale. Et encore aujourd'hui, ce matériel est vraiment beaucoup moins cher. Et donc, je continue, bien sûr, à l'acheter à la fois pour des raisons évidemment économiques, mais aussi parce qu'évidemment, j'ai découvert tout de suite des sonorités sans doute qui étaient très proches de toutes les sonorités que j'avais pu entendre enfant en écoutant toutes les musiques traditionnelles asiatiques qu'on avait à la maison. Et puis, ces instruments ont, par rapport aux critères occidentaux, beaucoup de défauts. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout homogènes. Et c'est cette hétérogénéité qui fait leur richesse harmonique. Et ce qui fait que une cymbale que je frotte sur la peau, par exemple, et dont j'amplifie de manière acoustique les harmoniques, Je la tourne d'un centimètre, ça change complètement de hauteur. Et donc, je ne peux pas vraiment savoir quelle hauteur va surgir. Je dois constamment m'adapter en fonction de ce qui se passe. Je ne peux pas vraiment prévoir ce qui va se passer. Donc, il y a ce jeu, ce côté ludique qui est très important. Mais aussi on me donne des instruments, enfin, des objets. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire parce que y a des personnes qui ont l'intuition qu'un objet va me plaire. Et c'est 9 fois sur 10 le cas. Et donc, j'aime beaucoup ces cadeaux parce qu'en plus, ils me surprennent à chaque fois. Et parfois, je ne sais pas quoi en faire au début. Et donc, le nouvel objet, il est là avec moi. Et puis, c'est vraiment dans le cours d'une improvisation que je vais m'en emparer sans absolument savoir ce qui va se passer avec. Voilà. Le dernier instrument qu'on m'ait vraiment donné comme ça, c'est une magnifique pierre ronde blanche qu'une femme que j'avais, qui était venue me voir après un concert au Canada, à Guelph exactement, où il y a un festival plutôt orienté jazz. Après le concert, elle m'a offert cette pierre blanche en me disant qu'elle me plairait sans doute. Et j'aime beaucoup cette pierre parce qu'elle est vraiment, bon, pas ronde exactement, comme, pas sphérique comme une boule de billard, mais elle est vraiment très très ronde, disons. Et elle provient d'un torrent. Elle me disait qu'elle vivait pas à Guelph à l'époque, mais beaucoup plus à l'est encore du Québec. C'est une région montagneuse avec des torrents qui vont très vite. Et il y a des virages dans ce torrent, je ne sais pas comment on peut dire ça. Et des pierres restent coincées, en fait. Là. Et elles tournent sur elles-mêmes pendant des années, des années, des années. Elles se polissent, elles deviennent rondes comme ça. Et ça, c'est une pierre que j'aime beaucoup, d'autant plus que, bien évidemment, quand un ami me donne un instrument et qu'ils sont toujours avec moi, je pense à eux. Et puis, il y a quand même, j'avoue, une forme d'animisme quand même. C'est-à-dire que moi, j'ai un rapport aux objets un peu enchanté. C'est-à-dire qu'ils doivent... ils ne sont pas inanimés, quoi. Ils ne sont pas neutres, sauf quand parfois je suis fatigué. Et là, à ce moment-là, c'est comme si l'éclairage s'était éteint dessus. Et ils n'ont plus de relief, ils n'ont plus rien. Et voire même, ce n'est pas qu'ils me dégoûtent, mais presque. Mais la plupart du temps, non. Dès que je les vois, ils appellent à quelque chose, mais je ne sais pas exactement quoi, mais ils appellent à quelque chose. Donc il y a un côté quand même enchanté qui est très présent.
Thank you.
De la pièce ronde cueillie dans un torrent et offerte aux musiciens par une auditrice émue, au gigantesque lithophone joué par Tony Di Napoli, il y a bien sûr un monde et en même temps évidemment un dénominateur commun, celui de la matière, travaillée dans le premier cas par les caprices du torrent et dans le cas du lithophone par les mains du sculpteur Tony Di Napoli, avec qui les Kuanin forment duo.
Moi, je suis fasciné par un musicien comme ça parce que quand même, il travaille sur un matériau qui a 352 millions d'années. Et moi, je trouve ça absolument extraordinaire parce que c'est là, ça ramène aussi justement, d'abord, c'est avant l'humanité et ça ramène à oui, encore cette histoire-là, vague, cette espèce de flou, ce bruit de fond des origines qui, ça trouve, n'est qu'un fantasme complètement. Hein, et malgré tout, qui titille, si les gens sont si émus à entendre ces pierres, moi je pense quand même que ça vient de là. C'est comme une sorte de son fondamental. C'est comme si on reconnaissait ce son, même si on ne l'a jamais entendu. D'autant plus que c'est très curieux, on le reconnaît alors que la façon dont il joue les pierres va complètement à l'encontre de ce qu'on imagine être ce que peuvent faire des pierres. On pense que tout de suite quelqu'un va frapper sur les pierres, comme beaucoup les lithophones qui ont plusieurs milliers d'années, que d'ailleurs lui-même est allé entendre, surtout ceux du Vietnam justement. Et puis, mais lui, il les fait vraiment vibrer en les frottant. Et il y a ces sons qui sont aussi quelque part très modernes, puisqu'ils ressemblent beaucoup à des sons sinusoïdaux, donc des sons purs qu'on obtient normalement qu'avec des oscillateurs, qu'on trouve normalement pas, en tout cas à l'état naturel dans la nature. Et donc, qu'est-ce qui se passe là ? C'est quand même assez extraordinaire. Et donc, l'aspect vibratoire premier doit être vraiment l'un des facteurs qui fait que les gens sont complètement fascinés. Et de la même manière aussi, c'est quand même magnifique de voir Tony Napoli transporter 400 kilos de pierre pour faire des sons aussi aériens. Ça, c'est quand même assez aussi magnifique, cette jonction entre la pierre et l'air, en fait, entre ces deux éléments. C'est quand même assez incroyable.
nombreux dialogues, des percussions de l'équanine et des lithophones de Tony Di Napoli, instrument vieux comme le monde. Dans l'abécédaire de l'équanine, à la lettre T comme temps, on peut lire ceci. C'est finalement accorder peu de confiance au temps lui-même que de vouloir l'arrêter en l'enfermant dans des étapes. Improviser ne serait donc pas tant s'affranchir du temps que s'affranchir des moyens de le mesurer. De là découle chez ce musicien une conscience plus aiguë de l'espace que du temps.
C'est vrai que j'ai beaucoup plus de plaisir spatial que de plaisir temporel dans la musique, malgré tout. Quand j'écoute... Donc moi, je ne vais plus à la ville, mais là, donc j'ai pris le métro, j'ai pris le RER, et j'ai un plaisir absolument inouï à entendre les sons à droite, à gauche, les différentes pressions acoustiques dans les oreilles, que celui qui vient d'un couloir à gauche, celui du métro à droite, et d'entendre des sons derrière, des sons aigus, etc., graves, enfin, de toutes sortes de sons avec différentes matières. Là, c'est purement spatial. Et c'est un véritable plaisir que peuvent retrouver justement en bout de chaîne pour les gens qui aiment écouter le plaisir des audiophiles qui parlent vraiment d'une écoute en 3D, hein, d'une reproduction de l'image spatiale de la musique. Donc il y a aussi quelque chose d'incroyablement spatial et on peut avoir cette inclination à vivre ça. C'est tellement simple en plus, c'est ça qui est extraordinaire. C'est tellement simple, quand on donne des ateliers ou quand on donne des ateliers, j'insiste beaucoup auprès des enfants, des adolescents, de juste vraiment fermer les yeux, de mettre les mains sur les yeux, ce qui calme en plus, et juste d'écouter et on s'aperçoit à quel point l'espace est bien plus grand que ce qu'on pensait. Puisqu'on le pense souvent uniquement enfermé autour de nos petites pensées, elles ne sont pas forcément petites, mais enfin, elles restent quand même très largement enfermées dans la boîte crânienne, et soudainement, on s'aperçoit que l'espace est beaucoup plus vaste que ça, et c'est tellement simple en fait.
Est-ce que ton expérience avec l'électronique et avec l'informatique musicale, parce qu'à un moment donné, ça a beaucoup joué dans ton parcours, a justement participé à creuser cet espace, à l'élargir ?
Oui, mais de manière très, très humble, parce que je ne suis pas allé très très loin du fait que je n'ai pas vraiment les outils qui me seraient nécessaires et qui sont vraiment mathématiques, parce que moi je me suis intéressé à vraiment une branche de ça, qui est l'ordinateur comme partenaire et non pas l'ordinateur comme instrument. Mais avant ça, c'était l'intérêt pour les musiques électroniques, la musique concrète, les musiques électroacoustiques, ensuite la prise de son en général, ce qu'on appelle aujourd'hui le field recordings en anglais, de se mettre vraiment à l'écoute de ce qui se passe. Et ça finit par élargir absolument notre perception, et surtout la perception du lointain, curieusement. La musique concrète était plutôt une musique du proche, parce qu'on mettait des micros assez près, des matériaux. Mais moi, ce que j'ai appris avec toutes ces musiques, et surtout, par exemple, le travail de Widir, mais aussi les frères Namblar, c'est d'écouter au lointain, et d'entendre vraiment des arrière-plans. Donc, ça veut dire, le lointain veut dire aussi une écoute qui vient bien au-delà de soi, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup trop de musiques et de musiciens qui sont trop dans l'histoire de l'écoute intérieure et dans la communication. C'est-à-dire dans le fait de communiquer ci et ça avec la musique. Dès qu'on se met à écouter au lointain, même ça, l'histoire de la communication, de faire la musique pour soi, devient un des éléments possibles, mais pas du tout l'élément prédominant ou l'élément ou le seul élément. Je continue à écouter un chef-d'œuvre qui est considéré par tout le monde comme un chef-d'œuvre totalement inaltérable, à mon sens, qui est De Natura Sonorum de Parmigiani, c'est de la dentelle, il y a une vivacité incroyable. Et ça ouvre considérablement les oreilles pour un musicien, un instrumentiste. Cette vivacité du changement de timbre est une extraordinaire leçon de musique, vraiment. Mais qu'on peut totalement vivre autrement. En écoutant le réel, moi j'ai eu des leçons de musique dans le train, en écoutant le train qui arrive dans la gare. Maintenant les trains sont beaucoup moins bruyants qu'avant, hélas. Mais dans le passé, les vieux Cora, ils faisaient vraiment un tintamarre extraordinaire quand ils rentraient dans les grandes gares, comme ici à Paris, à Saint-Lazare par exemple. Et là, il y avait une diversité, une invention rythmique absolument inégalée. Bien sûr, c'est parce que c'est une invention rythmique absolument aléatoire, dont on ne peut jamais prévoir ni la dynamique, ni les distances entre les notes, ni les hauteurs. Là, ce sont des leçons de musique absolument fabuleuses qui nous permettent de nous sortir des circuits justement traditionnels de la culture instrumentale et de la culture artistique et musicale.
Au moment où cette conversation avec Lekouanine a eu lieu, la Fondation Boris Vian à Paris organisait une soirée danse et musique dédiée aux victimes de l'accident nucléaire de Fukushima au Japon. Lekouanine participait à cette soirée aux côtés de la danseuse de Buto, Moeno Wakamatsu. Leur performance, baptisée « Inscription d'une âme », était un moment de poésie pure, moment d'une grande intensité, partagé par quelques curieux ou initiés. La danse, écrit Lekouanine, en grand habitué de cette expression artistique, n'a besoin d'aucune musique. Éprouver par exemple les distances et jouer de la vitesse pour les parcourir, c'est du rythme. Nul n'est besoin d'en rajouter, c'est déjà tonitruant. Le corps, d'un état à l'autre, chante malgré lui.
La présence des corps, et là par exemple, donc tu évoques cette danseuse japonaise Moeno Wakamatsu qui vient de la danse Buto, sa présence qui est pourtant une présence très diaphane, très transparente et complètement fascinante. On a l'impression qu'elle sort de l'invisibilité. Et ça, c'est quand même c'est magnifique. Et ça, moi, ça me ramène à, bien évidemment, sur l'instrument, à qu'est-ce que ça voudrait dire, qu'est-ce que c'est que le son qui sort du silence. Est-ce que d'abord il en sort? Mais en fait, je n'en sais rien, en fait, vraiment. J'ai l'impression que oui, parce que malgré tout, son et silence, c'est deux phases d'un même phénomène. C'est toujours de l'air en vibration, plus ou moins. Si ça vibre très peu, il n'y a pas de son. Si ça vibre un peu plus, il y en a. Il y a ce type de présence vibratoire des corps qui, moi, me paraît très, très, comment dire, très proche, justement, de ce qu'on peut faire émerger comme vibration dans l'instrument. Et il y a quelque chose qui se joue là, qui est justement complètement mystérieux et de très fragile aussi. J'avais vu un documentaire sur, un jour sur le kabuki, où un grand chanteur de kabuki disait justement, c'était une réponse là, sur le pourquoi on vient au concert. Lui disait, c'est parce qu'on veut voir les gens mourir, en fait. On veut voir comment ils apprennent à mourir. Parce qu'en fait, c'est, tout ça est très éphémère. Et que donc, la chose qu'on entend là meurt immédiatement après. Et qu'on essaie de s'habituer à ça, où on s'entraîne. Mmh. Voilà. Et bien, dans le cas de cette danse-là, qui est très, très sur la brèche, ces danseurs-là sont réellement là-dedans. Ils sont tout le temps, à chaque pas, ils sont dans cette mort et renaissance constante. C'est quand même assez extraordinaire. Et d'où le... qu'est-ce que ça veut dire de faire émerger un son de l'instrument? Est-ce que c'en est un? Est-ce que si j'en fais pas, c'est quand même un son? Est-ce que si j'en fais, est-ce que c'est pas du silence non plus?
L'Équanine jouera le 5 juin prochain en trio avec la violoncelliste Martine Altenburger et la vocaliste Géraldine Keller à la Fondation du Doubs à Blois et participera en juillet prochain aux rencontres des arts de l'improvisation de l'Adornac avec le percussionniste Didier Lasserre. Il prépare également la deuxième édition du festival Le Bruit de la Musique organisé par l'association Rio Anji et qui se tiendra dans la Creuse en août prochain. Cette esquisse de portrait, réalisée grâce à la complicité de Françoise Cordet, Cédric Chatelus et Soisic Noël, se referme à 1h. Les programmes de nuit de France Musique vont vous donner tout loisir d'apprécier davantage encore ce qui sépare le son du silence.